Mes très chers amis, vous savez que j'aime beaucoup la science moderne. La science, quand elle se contente de découvrir les merveilles de Dieu dans le monde qu'il a créé pour nous, afin que nous soyons heureux, la science nous rapproche toujours de Dieu. Cette connaissance n'est pas la connaissance qui est celle proposée par Satan à Ève, l'invitant à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Car alors, Ève et Adam, ils deviendraient comme des dieux. Non, la vraie connaissance n'est pas cela. Et pendant des siècles, les découvertes humaines ont permis aux hommes de se développer, de pouvoir éviter les famines et d'apporter des facilités aux travaux quotidiens. Cela, c'est normal. Et de nombreuses sociétés en ont fait l'expérience. On pourrait citer les civilisations perses, grecques, romaines et surtout européennes. Mais malheureusement, le mal aussi était là. Et toutes les guerres qui ont eu lieu dans le monde, presque constamment et partout, montrent la présence de Satan, l'ennemi du genre humain. Et ces guerres continuelles ont permis de développer des armes de plus en plus meurtrières et de détruire parfois certaines civilisations qui avaient oublié les merveilles de la nature et les lois de la nature qui y sont attachées. Heureusement, ces cas étaient relativement limités, car d'une manière générale, les hommes continuaient à se référer à Dieu. Mais rapidement, les hommes ne désirant que leur confort, un confort sans cesse amélioré, se sont détachés de Dieu et ont même commencé à nier l'existence de leur Créateur. Naquirent alors les Lumières, en réalité des ténèbres épaisses, dont le seul but était de détruire Dieu. Et nous avons assisté à des révolutions, toutes avides de tuer les hommes restés fidèles à Dieu. Ces condamnations à mort ont été constatées au cours de toutes les révolutions, françaises, mexicaines, espagnoles, communistes et bien d'autres. Il y a une vingtaine d'années, au cours d'une retraite pèlerinage, j'eus l'occasion de parler longuement à un prêtre théologien auquel je dis « Le péché originel, c'est nous qui le commettons actuellement ». Le prêtre était tout à fait d'accord avec moi. En effet, contemplons ce qui se passe aujourd'hui et qui était déjà prévisible il y a 20 ans. Ne sommes-nous pas en train de construire la tour de Babel avec la mondialisation qui se met en place et la langue anglaise qui peu à peu remplace toutes les autres langues? Certes, cela est grave, mais ce n'est pas le péché originel que nous sommes actuellement, aujourd'hui, en train de commettre. Ce que je viens d'affirmer est grave et je vais maintenant m'expliquer. Ne sommes-nous pas tous épouvantés par ce que nous découvrons dans les revues scientifiques? Ainsi, récemment, certaines revues affirment que nous sommes en train de créer des formes de vie nouvelles. Déjà, des ADN sont modifiés et de nouvelles cellules vivantes réalisées. Une émission télévisée dont je n'ai entendu que la dernière phrase disait que bientôt l'homme serait modifié. Je ne sais pas comment. Incontestablement, tout cela est effrayant, car l'homme se met à la place de Dieu. Pourtant, cela est impossible, et d'autres découvertes très récentes nous le prouvent. Ainsi, nous connaissons maintenant notre Laniakea, notre super amas galactique. Laniakea est, parmi d'autres, un amas de galaxies, parmi lesquelles se trouve notre Voie lactée, notre galaxie, point minuscule dans cet amas de plusieurs millions de galaxies. Et nous, sur la Terre, que sommes-nous? Même avec beaucoup d'imagination, nous ne savons plus nous représenter ces mondes infinis. Je veux vous donner un exemple. On dit souvent que pour Dieu, un jour, pour lui, c'est comme 1000 ans pour nous. En fait, c'est pire. Ainsi, d'après le numéro 495 de la revue La Recherche, un jour solaire, soit une année-lumière, ne représenterait que 1 divisé par 13,8 milliards d'années-lumière de notre univers visible. Je vous laisse faire le calcul. Pour être plus facilement compréhensible, un jour solaire, donc une année-lumière, est 1 divisé par 500 millions d'années-lumière de notre super-amas Laniakea. Ou encore, un jour pour Dieu vaut 520 millions de jours humains. On comprend pourquoi le temps de Dieu nous paraît si long. Toutes ces découvertes modernes nous déstabilisent quand elles ne nous effraient pas. Car incontestablement, nous ne maîtrisons rien de la création dans laquelle nous vivons. Mais redevenons un peu plus sérieux, c'est-à-dire revenons à notre échelle humaine. Toutes les découvertes de la science moderne nous rapprochent de Dieu, car face à toutes ces immensités, qu'elles soient infiniment grandes ou infiniment petites, nous perturbent beaucoup. Nous ne pouvons ni les saisir, ni les comprendre. Quand nous imaginons Dieu créant les mondes, nous voyons sa grande main contenant tous ces milliards de mondes que nous-mêmes sommes incapables de voir tant nous sommes tout petits. Et pourtant, nous vivons. Nous savons que nous vivons. Et c'est notre intelligence qui nous permet d'appréhender tous ces infinis. Tout cela n'a jamais pu se faire tout seul, et encore moins l'intelligence qui crée et gère tout. Nous sommes devant Dieu qu'il est impossible de nier. Nous sommes devant Dieu qu'il est impossible de nier. Alors, pourquoi tant d'hommes nient-ils l'existence de Dieu qu'on ne peut pas nier ? Cela me fait penser à ce qui s'est passé à Jérusalem peu de temps après la Pentecôte. Ce qui suit est raconté dans les Actes des Apôtres. Pierre a guéri un paralytique que tout le monde connaissait. Même les pharisiens et les membres du Sanhédrin ont constaté ce miracle et avouent qu'ils ne peuvent nier ce fait. Et pourtant, ils veulent empêcher Pierre et les apôtres de prononcer le nom de Jésus. Pourquoi ? Pourquoi nier l'évidence ? Pourquoi nier ce qui est incontestable ? Nous nous trouvons devant un phénomène inexplicable. Oui, inexplicable, mais qui nous rapproche de la vérité. Comment cela ? Souvenons-nous, Jésus vient de célébrer sa dernière Pâque avec ses apôtres. Il sait qu'il va à sa passion, mais il veut faire savoir qu'il connaît les conditions de sa mort prochaine. Aussi rend-il grâce à la volonté du Père qu'il a pleinement acceptée. Et prenant le pain, il le bénit et dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis Jésus fit de même avec la coupe pleine de vin et dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » L'Eucharistie était instituée. De nouveau, nous nous sentons perdus. Oui, nous nous sentons perdus, car comment comprendre que Dieu, pour sauver les hommes qui avaient péché en refusant sa volonté, comment comprendre que Dieu veuille livrer son Fils entre les mains de malfaiteurs ? Dieu est l'infini qu'aucun cerveau humain ne peut contenir, et pourtant l'intelligence humaine peut découvrir et porter en elle la création infinie, œuvre de Dieu. Et l'homme refuse d'obéir à Dieu et se retrouve très malheureux. Et Dieu, pour sauver l'homme, envoie sa parole qui s'incarne dans un corps humain. Pour ne pas abandonner sa pauvre si petite créature, si petite et pourtant si grande car aimée de son Créateur, Dieu fait homme, se fait petite bouchée de pain et gorgée de vin pour rester près des hommes jusqu'à la fin des temps et leur servir de nourriture. Dieu infiniment grand, bien plus grand que sa création, dont nous n'arrivons pas à connaître les limites. Dieu se fait homme ridiculement petit, Dieu se fait pain et vin. La parole de Dieu devient Eucharistie. Nous sommes vraiment très perturbés, mais notre foi, devant une évidence indiscutable, devient plus solide. Mais alors, comment des savants peuvent-ils encore refuser Dieu ?